Club original, soyez les bienvenus avec les Black Adobe Daddy.
Bonjour à tous.
Alison Wheeler.
Bravo.
Daniel Morin.
Ah, bravo Daniel.
Albert Algou.
Bonjour.
Et nos invités, Maurice Barthélémy et Baptiste Kaplan.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue.
Merci les garçons de venir nous parler de ce film Les Ex, tout un programme, plusieurs histoires d'amour croisées. On va en parler avec Maurice Barthélémy et Baptiste Kaplan. Je ne suis pas sûr, Père Albert, vous avez bien compris pourquoi mais, ils sont nos invités.
Mais je sais, Nanguet, que les brusques changements de température dont nous souffrons tous en ce moment peuvent altérer profondément notre entendement. Mais le vôtre me semble particulièrement atteint. Ou alors ce n'est point à la chaleur, mais tout simplement à la duplicité, pour ne pas dire à l'hypocrisie, qui est dû cet oubli de ce que vous aviez dit tout à l'heure, quand vous avez lu sur vos fiches les noms de Maurice Barthélémy et de Baptiste Le Caplain. Bonjour les garçons.
Bonjour.
Bonjour père.
Et qu'avez-vous dit tout à l'heure sur eux et sur leur film, Les Ex, juste avant le flash? Alors que GNB, notre rédac-chef, devant votre mine atterrée, venait de vous souffler d'une voix tremblante que cette comédie était un film choral, vous lui avez répondu « Rien à foutre des chorales au cinéma. Déjà que je m'étais juré, en sortant de voir les choristes, de ne plus jamais aller voir de film avec une chorale, tu me programmes un film choral. Putain, je sais pas ce qui me retient de tous vous planter là et de foutre le camp à Europe 1. Mais, bien sûr, je vais me calmer. Et une fois de plus, je vais donner le change. Le pitch du père Albert devrait sacrément m'aider d'ailleurs. Effectivement, mon pitch va vous aider, Nanguy. Et le voici. Les ex, ce sont des histoires de relations devenues anciennes.
Là, on voit mieux.
Et vous voyez mieux. Et moi, je dois dire que pour avoir ri en regardant cette comédie très amusante, je n'en ai pas moins été remué au plus profond de moi-même. Car le personnage interprété par Arnaud Ducret dans le film, qui incarne un prêtre, le père Laurent, qui doit célébrer le mariage de son ex, ça arrive, m'a ramené une période douloureuse et sportive à la fois de ma vie sacerdotale. J'étais alors aumônier des jeunes ramasseurs de balles de Roland-Garros.
C'est horrible.
Et à cette occasion, je m'étais lié d'amitié avec un tennisman australien, gavé de testostérone, qui avait la voix qui changeait des hauts et des bas, prénommé Dennis, et qui m'avait demandé en mariage dans les douches pour hommes. Ce qui m'avait séduit, je l'avoue, chez ce barbu à la voix très grave, c'était ses coudes. Son énorme paire de coudes, d'où son surnom de Denis Elbow. Eh oui, bien sûr, je ne pouvais pas relever ça. J'en étais dingo, il frappait fort. C'était dur, mais bon, il frappait fort, c'était dur, mais bon. Dur, mais bon, sur ce, bon, allez, je vais changer de soutane. Non, sans vous avoir souhaité une bonne émission.
C'est vrai qu'il y a un rôle qui a touché, qui a ému Père Albert, c'est le rôle porté par Arnaud Ducret, qui retrouve Stéphie Selma, d'abord qui se retrouve parce qu'ils ont déjà joué ensemble. Mais
Stéphie,
un
prénom de tennisman.
Oui. Oui, c'est vrai, c'est pas Stéphie Graff, c'est Stéphie Selma, qui se retrouve être une ex à lui, sauf qu'il est devenu curé entre-temps, et là, il se doit de marier, comme tu l'as dit, son ex. Que des histoires, il n'y a pas que des ex, parce qu'il y a Judith Elzheim aussi, le personnage de Judith Elzheim et de Jean-Paul Rouve, c'est plutôt une histoire d'amour naissante.
Exactement.
Tous les autres ont soit un boulet qu'ils traînent d'une ancienne histoire d'amour, soit des restes comme Baptiste Kaplan, enfin des restes.
C'est un chien.
Non, mais
c'est
Nagui.
Moi, je me contente des restes, moi.
Non, c'est un chien, c'est ça. Elle vous a laissé le chien.
Elle m'a laissé un appartement vide et un chien. Ouais,
c'est
ouais.
Ça.
Jean-Claude.
Qui lâche des caisses dans la voiture.
Ça, c'est affreux, ça.
Un chien qui lâche des caisses dans la caisse.
Une voiture. Ouais,
tu vas en parler, Albert.
J'en connais un rayon.
D'accord.
Donc il y a également, puisque c'est un film choral, Jean-Paul Rouve, Patrick Chesnay,
Claudia Tagbo.
Non mais c'est pas ça, Arnaud Ducret, c'est déjà fait, Stéphie Selma, c'est fait, Judith Elzheim, c'est fait, Baptiste Kaplan, il est là, Alice David, Zoé Duchesne, Claudia Tagbo, tu as raison, j'ai oublié qui, Maurice, c'est déjà fait, Amaury de Créancourt, Natacha
Lidinger,
on dit Lidinger.
Oui,
Lidinger,
très bien. Jean-Paul Rouve, évidemment.
J'ai déjà dit ça.
Ah ouais. Merci.
Oui, ça je le sais depuis longtemps.
Hein. C'est faux.
En tout cas, bref, chorale, extrêmement chorale. Et pourtant, elles sont toutes imbriquées les unes dans les autres, ces histoires, et chacune ont leur particularité.
Ouais, exactement. Moi, j'ai été inspiré par un film, Love Actually, qui m'a marqué.
Je crois que c'est un film italien.
Alors, au départ, il y a un film italien qui s'appelle Ex, que j'ai vu en Espagne, et je me suis dit, waouh, oui, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est pas comme ça.
Love Actually, c'est un film italien en Espagne.
C'était doublé en anglais, c'était pas simple.
Version albanaise.
Et je me suis dit, tiens, je m'en inspirerais bien. Donc j'ai racheté les droits du film, et plutôt que d'en faire un remake, ben, j'ai fait un film différent, mais quand même en achetant les droits du film de départ, parce que je suis un garçon honnête.
Ouais, ce que j'avais dit, parce que n'importe qui aurait dit, tiens, c'est une bonne idée de faire un film sur les ex, et aurait extrapolé tellement qu'on aurait dit, non, ça ressemble à...
Exactement. Non, par souci d'honnêteté, j'ai préféré faire les choses bien.
Très bien, très bien, très bien. Ça vous ressemble pas, mais c'est vraiment tout à votre hommage, Maurice Barthélémy. Le film, alors, impossible à raconter.
Enfin, non, je veux dire,
Depuis que je l'ai vu, je dis, mais comment je vais pouvoir raconter ça?
Ben justement, il ne faut pas le raconter. L'idée, c'est que ce sont des couples de générations différentes qui ont tous un point commun, c'est un peu le regret. Alors, le regret, soit de ne plus être avec leur ex, soit d'avoir rencontré leur ex. Et donc, du coup.
Ou soit de rester avec la même depuis des années, ce qui est le cas de Patrick Chenet aussi.
Exactement. Ouais. Et donc, du coup, ben, qu'est-ce qui va se passer pendant ce film? C'est qu'on va assister à des tentatives de récupérer l'ex ou de quitter l'ex, etc. Donc c'est pas un film qu'on peut pitcher si ce n'est de dire qu'il y a beaucoup de cas de figure autour des ex.
Et c'est extrêmement drôle et chacun est bien. Alors est-ce que le casting s'est fait au moment de l'écriture? C'est-à-dire que quand vous écrivez les caractères de Baptiste Le Caplain ou de Patrick Chenet, vous savez déjà que c'est pour eux parce que ils ont l'étoffe de jouer ce personnage-là.
Hélas non, parce que quand on écrit, en fait, si on commence à se dire tiens, je mettrais bien tel acteur dans tel rôle, après, une fois qu'il a refusé, on a du mal à faire le deuil. Ouais. Donc, c'est vraiment au moment de la construction du financement du film. Au départ, j'ai pensé à Rouve, parce que c'est un peu mon camarade de classe. Et puis, petit à petit, Chenet, avec qui j'avais tourné dans Casablanca Driver. Et puis, Baptiste est arrivé après. Moi, on ne se connaissait pas, Baptiste et moi.
Non, mais moi, j'ai fait un casting, tout simplement.
Ouais, il a fait un casting.
J'ai fait un casting.
Et vous l'avez réussi.
Oui, merci. En plus, le casting était super. C'était un truc très, très original. On peut le dire ou pas?
Bien sûr.
En fait, on a eu un texte et qu'on a découvert quand on est arrivé au casting. En fait, c'était une interview de Yannick Noah.
Mais c'est pas vrai.
Je te jure. Et c'était une longue réponse de Yannick Noah. Et moi, ça m'a vachement parlé parce qu'il parlait de l'éloignement, des sacrifices qu'il avait dû faire pour devenir un grand champion de tennis. Et en gros, la directrice de casting, qui était géniale, m'a dit juste approprie-toi le texte et sois le plus naturel possible. Et c'était une réponse de sportif, enfin vraiment une interview de sportif qui disait bah voilà, moi, quand j'ai quitté mon foyer, j'étais jeune, mais j'avais l'ambition de réussir. Hein. Et
c'est
donc,
fou.
Fallait juste faire ça.
Rien à voir avec le rôle, le personnage, le texte du film.
Parce que Maurice
et, aucune, et pardon, et aucune vanne en plus dans aucune le texte.
Rien du tout, même pas un saga Africa, rien du tout. Et non, c'était vraiment une longue interview, c'était super parce que j'avais fait deux prises et elle m'a dit ok, et après j'ai eu un coup de téléphone de Maurice. Et il m'a dit, bah, j'ai bien aimé. Donc,
en fait, ce que moi je recherche dans ces castings-là, c'est le naturel, en fait. Et surtout de ne pas non plus travailler sur le texte du film. Parce que j'aime bien quand les acteurs arrivent sur un plateau, que ça soit très frais. Et donc, l'idée de les faire travailler en amont sur le texte, ça me déplaît. Et là, pour le coup, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de voir le naturel de Baptiste. Et surtout, l'intelligence, retrouver l'intelligence d'une interview. Et comment est-ce qu'une personne va au bout d'une idée dans une interview. Et ça, c'est ça qui m'intéresse.
Alors vous, Baptiste, vous êtes la touche aussi, on va dire quoi, émotion du film. Bah oui.
Il a eu très peur.
Non, c'est la touche émotion parce que on touche. La mort est très présente. D'ailleurs, il y a des enterrements dans le film. Ouais. Il y a des maladies graves dans le film. Un cancer, en l'occurrence, votre chien étant lui-même malade. Et donc vous êtes, on se demande si vous êtes hyper fragile, à deux doigts de basculer dans la dépression ou au contraire super ouvert à une nouvelle rencontre affective.
Bah c'est
après avoir justement été quitté par une ex.
Ouais, mais c'est ce qui était hyper intéressant à jouer et c'est ce qui est très agréable avec Maurice, c'est que il y a que de la bienveillance dans ce film. Moi, je sais que si j'avais fait un film sur les ex, ça aurait été très noir ou très cynique par moment. Mais Maurice pas du tout et il y a énormément de bienveillance dans tout ce personnage.
Ce qui n'était pas le cas de Lucien Jean-Baptiste, que vous m'aviez dit qu'il était odieux sur
le
tournage.
Ah oui, Lucien est horrible, bien sûr, évidemment, il m'a fait des trucs mais horribles. On est en justice d'ailleurs.
Très bien,
je préfère le dire.
Je vous ai encouragé.
Merci, t'es gentil.
Présomption d'innocence.
T'as été même témoin.
Il a fait des faux témoignages.
Ouais, exactement. mais c'était ce qui était cool. Et la consigne que m'avait donnée Maurice, il m'avait dit le perso de Greg, c'est un mec qui vit. qui vit la situation et il se laisse pas, il est pas down, il est pas happy non plus, il vit la situation.
Avec son
c'est
chien.
Un chauffeur de taxi, oui, qui est.
En fait, ouais, je me fais larguer et mon ex me laisse un chien que je traîne comme un boulet et en fait.
Que vous n'aimez pas en plus.
Non, je le déteste, ouais, j'en ai rien à foutre. Enfin, il pue, il respire fort, et c'est vrai, en plus, il pue vraiment. Mais il devient très vite mon ange gardien et du coup, il va m'aider, on est compagnons de route, quoi. Et c'est très agréable. Et j'en rencontre une sublime jeune fille, la personne Alice David.
Voilà, c'est ça. Qui, elle aussi a ses problèmes personnels et qui est la fille de Patrick Chesnais. Alors c'est dans
elle a le même problème que le chien quand elle est en voiture.
Dans le, elle a le même problème que le chien, en l'occurrence.
Non, ouais.
Non, dans le film, oui.
Dans le film, oui. Alice, non, fait pas ça.
Il faut dire les choses.
Mais donc il y a des liens entre les uns et les autres, entre la belle famille, l'outing de Patrick Chesnais, qui, alors lui, qui est une sorte de juge justement, qui prononce des divorces.
C'est ça.
Et qui
en même temps se sépare de sa femme.
C'est ça.
Et voilà. Et qui vit très très bien le fait de s'être séparé de sa femme et qui conseille aux gens qu'il reçoit dans son cabinet de se séparer.
C'est ce qu'il y a dans la bande-annonce d'ailleurs, on peut le dire, parce que c'est dans la bande-annonce. Ça y est, je vous déclare officiellement divorcé, vous pouvez vous embrasser. C'est comme si c'était une espèce de soulagement.
Mais maintenant on fait des fêtes de divorce.
Ouais, oui. J'adore l'idée.
Bah oui.
J'adore l'idée.
C'est pas la fin de la vie non plus. Et puis il y a Jean-Paul Rouve qui incarne le spécialiste qui a écrit ce bouquin Heureux comme un ex.
Exactement, c'est un psy.
Invité à la radio à Europe 1, parce que Europe 1 est très présente dans le film. J'espère qu'ils ont donné de l'argent pour ça, puisque Judith Elsheim est animatrice.
Voilà, et lui, c'est le théoricien en fait de la rupture.
Exactement.
Alors que, comme souvent, il est le plus mal placé en fait.
Exactement. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire, c'est le gars qui donne des conseils. En fait, dans son intimité, il gère pas du tout la relation qu'il a avec cette journaliste de radio. Et c'est un pur échec. Ouais, exactement.
Oui, il offre des tisanes, par exemple. Moi, je connaissais pas ce plan drague. En fin de soirée, si. Tu montes chez moi boire une tisane.
Oui, mais c'est parce qu'en fait, un choix de tisane.
Bah,
c'est ça,
ouais.
Mais c'est parce que je suis comme ça, moi.
Ah, c'est vous la tisane.
Moi, je serais tisane.
Ah, c'est vous la tisane.
Ouais, c'est ça.
C'est
et donc, du coup, moi je suis.
Est-ce que ça marche?
Eh ben, ça. Pas trop, non. Après coup, maintenant que vous me le dites.
La drogue du violeur s'annule dans le truc chaud. Je tenais à le dire quand même. On a fait un tuto avec Maurice qui a pas très bien marché.
Mais attends, je note.
Ça marche pas très bien.
Pas d'eau chaude.
Il a évidemment tous ces personnages renvoient chacun, à part peut-être la situation extrême d'Arnaud Ducré, c'est-à-dire
Et Claudia Tagbo quand même.
Je finis avec Arnaud
Père Laurent, avec Père Laurent.
Un point après l'autre.
C'est ça. Qui donc a vécu une histoire d'amour avec Stéphie Selma, le personnage incarné par Stéphie Selma, qui se retrouve à devoir marier une ex. Parce que là, on est dans une situation extrême et que Tagbo, elle est policière.
Elle est policière et elle vous en veut à vous, Maurice
Barthélémy. C'est votre ex.
Parce que.
Parce que vous sortez avec
son ex à elle. Donc c'est bien aussi. On a toutes les formes d'amour sont représentées dans le film.
Exactement. Il y a tous les cas de figure.
Voilà.
Il y en a pour tout le monde.
Oui, il y a amour entre deux garçons aussi. On va pas dévoiler lequel parce que sinon.
Et deux filles.
Et deux filles, voilà.
Et le chien.
Tout y est.
Et le chien avec Baptiste.
C'était coupé, ça. Dans le bonus DVD.
C'est une compile de tous les cas de figure. Et en même temps, c'est un film pas du tout sur la rupture. C'est beaucoup plus un film sur la réconciliation.
Ouais.
C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'en gros, moi, j'ai constaté que toutes les ex que j'ai pu avoir, elles m'ont apporté quelque chose. Même celle avec qui ça s'est mal terminé. Donc c'est pour ça que c'est plus un film positif qu'autre chose.
Ça s'appelle Les Ex. C'est extrêmement drôle, bien incarné, bien porté.
Bien joué.
C'est quoi ce oui
bah, je sais pas. Non mais j'ai entendu le jeune
homme. Presque sardonique. Oui, c'était bon ça.
Et puis c'est Paris, c'est la ville de Paris aussi.
Exactement.
Donc le cadre il est important.
La ville de l'amour et donc forcément la ville des ex.
Ouais,
et
oui.
Avec ce casting formidable réuni devant la caméra et la direction de Maurice Barthélémy, on adore les détester. Ses ex, c'est une source vraiment de très 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 bonne. Et Patrick Chesnais,
extraordinaire.
Est extraordinaire. Pour une fois, c'est pour ça qu'il faut le souligner. Assez rare.
Il a saccagé des films.
Avec François Berléand, c'est les deux qui ont bien pourri des promos, mais là,
battre des records.
Vous reconnaissez que c'est bien.
Presque un bilan carbone.
Maurice Barthélémy et Baptiste Caplin sont nos invités. Vos oreilles ont sifflé. Elle est là quand on vous annonçait leur venue.
Oui, et quand je pense à vous, Maurice Barthélémy, je pense à un film.
T'aimes quoi comme gâteau, toi?
Moi, j'aime les Chamonix.
Ah non, pas les Chamonix. C'est dégueulasse, les Chamonix.
Bah, moi, j'aime bien.
Non, bah, je suis ton père. C'est ce que t'aimes et ce que t'aimes pas.
je sais ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Je suis ton père, c'est Papa.
Chabat.
Porté par Alain Chabat, ouais. Absolument, qui aborde quand même un. C'est une comédie dramatique qui aborde le sujet assez difficile du deuil. C'est une tonalité dans laquelle, a priori, je vous imaginais pas. Et vous vous êtes essayé à ce registre-là. Pourquoi Chabat? Pourquoi ce sujet? Pourquoi cette histoire?
Pourquoi cette histoire? Parce que c'est une histoire qui est arrivée à quelqu'un qui m'est proche dans ma famille, qui a perdu un enfant. Et un jour, il s'agit de ma sœur, bon. Et ma sœur me dit, voilà, j'étais en famille avec l'enfant qui me restait. Et la personne lui a demandé de ne pas évoquer le drame qui lui était arrivé à table pour ne pas choquer les enfants à table. Mm-hmm. Ça m'avait tellement choqué que je m'étais dit que...
Comme s'il y avait une espèce de honte.
Une honte à avoir perdu un enfant.
Et qu'on oubliait l'être humain qu'il était, c'est-à-dire de ne pas en parler, c'est carrément de l'effacer de la mémoire.
C'est ce qui est pire.
C'est violent. Ouais.
Et donc ça m'avait tellement choqué que je m'étais dit, ben je vais en faire un film. Donc c'est ce qui m'a motivé au départ. Et Alain Chabat, parce que pour moi, Alain Chabat, c'était le père que moi j'aurais voulu être, quoi. Ouais. Et donc,
c'est mignon, ça.
Et donc du coup, ça me paraissait logique. Il se trouve qu'à l'époque, on venait de faire Re avec les Robins des Bois.
Ah, vous dites Re, vous?
Ouais, je dis re ou re.
Claire Chazal le disait mieux, quand
même. C'est vrai?
Au 20h, elle a passé l'abondance, elle fait, et le nouveau film, elle
faisait, ah ouais?
On avait l'impression qu'elle avait un chat dans la gorge, quoi. Elle n'allait pas faire le.
Claire Chazal, toujours chacun très impliqué, Claire Chazal.
Et donc, voilà. Donc, Chabat, c'était évident. Et ce qui est marrant, c'est que j'en ai parlé quelques années après avec sa fille, qui m'a dit, mais comment t'as pu imaginer mon père comme ça, parce que c'était tellement lui au cinéma. On a été troublés, on a l'impression que t'avais passé toute notre vie avec nous pour le décrire aussi bien.
Et vous étiez déjà papa pour ce film?
Pas encore, je suis devenu père au moment de la sortie du film. Donc c'était une projection.
Waouh. Wow.
C'est un film extraordinaire.
Merci Baptiste.
Ouais, très touchant. Et quand je pense à vous, Baptiste
Caplin. Ça sert à rien les compliments, vous l'avez eu.
C'est vrai, la première fois que j'ai rencontré Maurice, j'ai dû lui parler 10 minutes de Papa, il m'a dit bon, on va parler de celui-là. c'est un de mes films préférés, j'ai adoré ce film, Papa, qui est vraiment trop bien.
Et quand je pense à vous, Baptiste Le Caplin, je pense à une série.
Alors voilà, donc ça c'est la salle du conseil. Hein, excusez un petit peu le bazar. Hein.
On a fait un méchoui avec des prisonniers.
Ah, notre emblème. Oui. Ouais, c'est la grenouille. Notre devise est d'un nénuphar à l'autre. Mais on essaye d'en lancer une un petit peu plus accrocheuse.
Les mystères sont le mythe.
Parce qu'on aimerait développer un côté un petit peu plus mystérieux.
Voilà, c'est Throne des Frogs, ouais. Une web-série parodique de Game of Thrones.
Ouais, et un peu aussi, on rend hommage un peu à Kaamelott aussi, hein, clairement on peut le dire.
Ouais.
De Yacine Bellous. Vous l'avez vu?
J'ai vu, mais ah, oui, merci. C'est en ligne, il y a 8 épisodes je crois.
Il y a eu 2 saisons, et là, il y a une saison 2 même, et qui est vraiment super, avec... Non mais dedans il y a des gens super, il y a Thomas VDB qui est venu, enfin il y a une montagne de guests. C'est une série parodique qu'a écrit Yacine Bellous, qui est un humoriste aussi, issu du Jamel Comedy Club, et qui a un univers très absurde, il m'avait confié ce rôle de je suis le roi d'un royaume nul, et on veut conquérir le trône de fer, on est tout pourri. Et on a tourné ça au château de Vincennes et c'était à crever. C'était génialissime.
Et vous êtes le rôle principal. Est-ce que vous participez à l'écriture de cette web-série? J'imagine que vous ne pouvez pas vous empêcher de rajouter votre,
ouais,
votre patte.
J'aime bien essayer de proposer des choses, mais quand je faisais rigoler Yacine, il me disait vas-y, fais-le. Mais sinon, je ne m'impose pas. Moi, quand on me dit Maurice le faisait sur le film Les Ex, c'était très agréable. On avait toujours une ou deux prises pour nous. Mais sinon, non, je n'impose pas ma patte à l'écriture. Non.
Et l'économie de la web-série, j'imagine que c'est intéressant de se dire tout d'un coup, tac, on peut produire quelque chose, le mettre en ligne rapidement, ouais, à moindre frais, dans une certaine mesure, et
exactement,
être le propre instigateur de ces projets.
Là, c'est les gens de Golden Moustache qu'on produit ça, et la saison 1 a tellement bien marché, enfin, il y a eu un écho très positif, du coup Comedy a acheté les droits et l'a diffusé après la saison 2, ouais. Donc on peut faire des choses de qualité sur le web. Ouais.
Et un guest avec Maurice Barthélémy?
Ah ben non, mais on en rêverait, la saison 3, on va...
Trop cher. Mais avec plaisir.
Ah bah non,
évidemment, je
viens. Jean-Paul Rouve, Patrick Chesnais, Arnaud Ducret, Baptiste Caplin, Stéphie Selma, Judith Elzheim, Natacha Lidinger, Alice David, Zoé Duchesne, Claudia Tagbo, Amaury de Crayoncourt et Maurice Barthélémy devant et derrière la caméra et à la plume aussi, parce que l'écriture, ça prend du temps, j'imagine, quand il y a autant d'histoires croisées, décroisées pour ne pas prendre les nœuds dans le...
Ben oui, et en fait, la principale difficulté, c'était une fois que le scénario scénario était écrit, c'était de convaincre les financiers, parce qu'en fait, quand ils lisaient le scénario, ils étaient complètement paumés. Et donc, du coup, ça, c'était...
Non, mais il nous a envoyé, ça, c'était génial. On avait le scénario, et à côté, on avait un espèce d'arbre généalogique avec tous les personnages. On avait un vrai schéma.
Les rapports des uns avec les
autres.
Ouais,
non, c'était super. À lire, c'était vraiment top.
Ça s'appelle Les Ex, et c'est au cinéma, en salle, donc, le 21 juin, jour de la fête de la musique, mais où les salles doivent être fraîches aussi quand il fait chaud dehors. Ça va être chaud d'ailleurs à l'intérieur maintenant. Carrément, elle a pris un guitariste, elle a le micro. Mais ouais, mais t'as raison, c'est du...
Je voulais pas de moi taratata, donc jusqu'au bout je vais faire ça.
Et c'est du live.
C'est ta chance.
C'est le moment. C'est le... Tu sais quoi ? Si tu réussis ce moment, il se passera un truc.
Est-ce que les fauteuils vont se retourner ?
Alison Wheeler, on l'a laissé son humeur dans la originale.
Moi, je voulais pas ne pas être là parmi vous aujourd'hui. Un film sur le thème des ex, fallait me dire. J'aurais pu faire conseillère technique sur le tournage, pas de souci. Non, vraiment, avec ma vie sentimentale, il y a de quoi fournir de la matière pour 10 ans de R&B français. Parce que pour changer, je me suis fait larguer encore. Et du coup, bah, je suis allée voir votre film pour me changer les idées. Ce n'est pas l'idée du siècle. Hein. C'est un peu comme aller voir Taxi après avoir perdu son permis. Alors, pour me soutenir, j'ai décidé d'inviter ma psy, mon ami, mon nord, mon sud, mon fils, ma bataille, Stéphie Selma.
Prochaine de la surprise. Arrivée de Stéphie Selma sur...
Qui est dans le film, elle aussi.
Ah ouais.
Cette chanson est dédiée à mon ex, avec qui je suis encore en bon terme. On fête nos 1 an de séparation aujourd'hui. Restez une piste. Non, non, non,
non, non, non,
j'ai eu du mal à me remettre de cette rupture.
Vivre sans être aimé, c'est vrai que c'est dur.
Il m'avait dit que notre histoire allait durer, qu'on finirait pas comme Élie et Dieudonné.
Mais aimer, c'est aussi accepter avec philosophie qu'il puisse être heureux avec une autre femme aussi. Et quand l'amour s'en va, il te reste une amie.
Et un peu la haine aussi. Alors je te souhaite une femme qui te rende heureux, qu'elle ait des plus gros 5 mois bien fermes et bien laiteux. Je vous souhaite de vous marier, mais qu'il flotte ce jour-là, d'avoir un chien aveugle et des triplés siamois qui t'abandonneront comme une vieille chaussette en prétendant aller acheter des cigarettes. Puis tu finiras seul en attendant la mort. Tu te suicideras avec tes remords. Tu prendras un aller direct pour l'enfer. Tu seras dans la même chambre qu'Adolf Hitler.
Ok. Refrain ? Refrain ?
Mais la haine ne résout rien. Toutes les bonnes choses ont une fin. Ça sert à rien de se fâcher comme Houellebecq. Avec son tube de shampoing sec. Mais la rancœur ne résout rien. Toutes les bonnes choses ont une fin. Mais non, 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 non. Pourquoi tomber dans la haine comme un supporter de Lyon avec Saint-Étienne?
On n'est plus des gamins, on agit avec raison. On fait le point, on se pose les bonnes questions. Mais que ferait Diane Sevita à ma place? Est-ce qu'il arrive à se regarder dans la glace? Faut-il l'oublier ou faut-il que je le menace? Ce qu'il a brisé, est-ce que Carglass le remplace? Est-ce qu'il faut que j'essaie de l'oublier avec un autre? Où est mon canapé que je me vautre? J'essaie de me reprendre, mais rien n'y fait. Je suis pisse à l'arrêt, ce fils de chien.
Allez, calme-toi. Ça va, chérie? Ça va?
Ouais,
c'est bon?
Ça ressemble.
Ouais, je sais.
Alison, tu devrais positiver et te dire que ça aurait pu être bien pire.
Oui, c'est vrai que j'aurais pu tomber sur Nicolas Bedos ou Benjamin Biolay.
Mais là. Toutes les bonnes choses,
merci,
ont une fin. Ça sert à se déchire et dit comme une capote sur Rocco Siffredi. J'étais naze, j'aurais dû voir des signes avant-coureurs. Même mon clear blue indiquait pourquoi t'as fait ça, ma sœur. M'a quitté pour être célibataire. Il aurait pu inventer une histoire d'adultère. Je l'aurais Monica Lewinsky, Valérie Trier-Bellé. J'aurais fait 3 tomes sur sa tête de con. Ou 1 livre de recettes sur ses putains de champignons. Laisse la rancœur s'envoler.
Oui.
Tu sais, on apprend de ses erreurs, bébé. Comme il t'a beaucoup trompé, on peut dire que tu as beaucoup appris.
Ça me remonte le moral, merci.
Mais la haine ne résout rien. Toutes les bonnes choses ont une fin. Ça sert à rien d'avoir le seul tout court. Comme les insoumis
au second tour. Merci.
Bravo. Bravo.
Oh, énorme.
Là, là, là.
C'est fini. Faut venir. C'est énorme,
incroyable.
J'avais envie de la chasamer.
On va saluer déjà Benjamin Wax.
Incroyable.
Ah oui, donc
Alison Miller et Stéphie.
Et sa transpiration.
Mon Dieu, pardon.
Et ma transpiration.
Non, d'accord, peu importe, mais surtout le talent, Stéphie Selma et Alison Miller. Merci mille fois pour ce morceau.
Elle chante bien.
Il est dingue.
Non, mais
tous
les deux.
Mais mieux que Jimmy Fallon, quoi.
On a bluffé, quoi. C'est énorme. C'était une surprise pour vous deux.
C'est génial.
Quelle surprise.
Mais Stéphie a tous les talents, quoi. C'est incroyable.
Mais comme quoi, dans une chanson, quand tu mets Adolf Hitler, ça porte. Non, mais c'est vrai.
C'est quoi déjà? C'est le point, je sais comment ça s'appelle là. Tu sais, quand tu en arrives à le au truc ultime.
Goldwyn,
c'est ça. C'est pas le point G, non. Alison Wheeler, merci pour ce cadeau.
Merci.
T'as été parfaite.
Mes voisins vous remercient.
Et je reprends la formule de Maurice Barthélémy, tu as tous les talents aussi.
Oh. C'est clair. Vous assurer qu'elle assure.
Merci mille fois.
Elle est très peu chez moi bosser hier soir. C'est trop bien.
Ouais. C'est trop forte.
Voilà. Bon, alors, je rappelle que Stéphie Selma est dans le film, et c'est elle justement qui va se faire marier par Arnaud Ducré.
Son ex.
En tout cas, c'est le point de départ, qui est son ex. Et puis donc Alison Miller sera dans le prochain film de Maurice Barthélémy, parce que c'est le principe, elle découvre au fur et à mesure. On sent le happening.
Les
on
futurs
sent.
Ex. Les...
Merci beaucoup Stéphie.
Bravo.
La bande originale.
Dans la bande originale de Baptiste Caplin et Maurice Barthélémy, nous parlons des ex. Évidemment, ce film que nous vous encourageons à aller voir, ça sera le 21 juin prochain. On s'y prend tôt, mais on vous encourage vraiment à y aller. Ce film, il est extrêmement drôle. Et puis, malheureusement, ben, vous allez vous retrouver dans l'un des personnages ou dans l'une des situations, parce que ça parle à tout le monde.
Ah oui,
quand je dis malheureusement, c'est qu'on n'a peut-être pas toujours envie de se rappeler des ex.
Oui, mais en même temps,
enfin, j'ai
ah bon enfin, parce que j'ai constaté quand même que chez les garçons, il y a quand même une véritable envie de revenir avec son ex régulièrement.
Ah non, pas du tout.
Ah bon, pas vous?
Alors, mais jamais, mais
non, mais t'es pas tous les garçons
ah
non plus.
Oui, mais non.
Oui.
Bah, Albert, il m'a dit tous les garçons.
Ah non, jamais.
Non, moi j'ai plutôt un côté féminin. Quand c'est fini, c'est fini. Il n'y a pas le côté.
Ah, okay. Ouais.
Okay. Oui, mais tu vois, je suis une femme.
Et toi, quand c'est fini, c'est pas fini. Le message est passé.
Je
te rappelle que t'es à l'antenne, donc
oui,
tout ce que tu dis passe.
Non, mais ce que je veux dire, c'est pas aussi clivé dans les genres.
Bah, relaisse-moi une chance. Voilà.
La bande originale de Baptiste Caplin et Maurice Barthélémy, ça commence, on va commencer dans les années 80, 85, 86. Baptiste Caplin. À la naissance.
À la naissance.
Ouais. Écoutez à la maison du Nino Ferrer.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie.
C'était maman, c'était papa, c'était.
Non, c'est mon papa sur les chantiers. Mon père, là, j'ai acheté un appartement, mon papa est en train de refaire tout l'appartement et il y avait du Nino Ferrer qui est passé. Et je dis, mais tu l'écoutais quand j'étais petit? Bah, ouais, c'est une de mes chansons préférées. Et je me souviens vraiment de mon père qui écoutait cette chanson. Mais j'adore cette chanson, elle est trop bien. Elle est incroyable. Je te jure.
Et,
c'est vrai.
Et à la maison, vous écoutiez quoi quand vous étiez gamin?
Quand j'étais petit,
vous entendiez quoi? La chanson française.
La chanson française. Du rock, oui, du... oui. Non, beaucoup de chansons françaises. Gérard Lenormand.
La variété. Tu...
Ouais, la variété. J'ai acheté des CD de variété quand j'étais petit. Ouais.
Le premier disque ou cassette que vous ayez acheté, c'était qui?
Oh putain. Alors, attends, c'était quoi? Je crois que c'était un truc de rock voisine.
genre Hélène.
Hélène, c'est le son des sables.
Je crois, ouais. Mais ouais, parce que non, mais attends. À l'époque, c'était les CD. Il y avait que un Leclerc près de chez moi. Mais après, j'écoutais énormément de vieilles chansons. J'ai rattrapé beaucoup, ouais.
J'aime beaucoup ça avec un t-shirt Radiohead aujourd'hui, si tu veux.
Attends, je me suis actualisé. Mais Nino Ferrer, c'est une de mes chansons préférées.
Tu as raison. Mais ça reste cultissime et incontournable, Nino Ferrer.
Incroyable. Pour moi, que voisine.
Ouais. Maurice Barthélémy, lui, écoutez.
Ah oui, c'est un
voilà. Quel niveau. Avec un clip dingue d'ailleurs, Stan Germain. C'est formidable. Une espèce de plan séquence accéléré. Enfin, faux plan séquence. En 86, donc, vous étiez dans la rue, en train de manifester.
Ouais, je faisais des manifs. C'était des manifestations contre la loi Devaquet. Et
ça a bien marché d'ailleurs, hein, la manif a fonctionné finalement, parce que la loi n'est pas passée.
Elle n'est pas passée, mais maintenant ça y est, il y a la sélection. Macron propose sélection.
Vous n'êtes plus lycéen.
Ouais, non, ça c'est.
Et puis c'est Malik Oussekine, ça.
Et puis c'était l'époque Malik Oussekine, et effectivement j'étais un activiste au lycée. Ouais.
Initialement, vous deviez suivre de brillantes études, c'était le parcours tracé par vos parents.
Ouais, mon père voulait que je fasse Sciences Po, l'ENA, et éventuellement après je pouvais faire ce que je voulais. Ah. Donc je lui ai dit, écoute, voilà ce qu'on va faire. Je vais d'abord faire ce que je veux et puis je ferai pas les nains ni Sciences Po.
Il a été inquiet comme tout parent qui entend la nouvelle de je veux être comédien, je veux être artiste sans garantie de l'emploi, intermittent du spectacle.
Oui, parce que mon père, lui, il avait fait Sciences Po et en même temps, il est devenu menuisier. Donc, il n'avait pas trop de conseils à me donner en termes d'inquiétude. Donc, non, il m'a laissé faire, il m'a fait confiance.
En 2004, Baptiste Caplin, vous êtes étudiant, mais aussi animateur de colonies de vacances. Vous avez votre BAFA?
Ouais, bien sûr, bah ouais, carrément.
Et à ce moment-là, Baptiste Caplin écoutait Sum 41.
Ouais.
Après le bac, vous avez fait quel genre d'études?
J'ai fait une fac d'anglais à Rennes et j'ai arrêté au bout de 3 mois. Parce que j'aimais vraiment pas ça. Non, mais comme j'en parle dans le spectacle, ben, je fais une petite parenthèse, mais j'étais quelqu'un de très timide, je détestais parler en cours, et je me suis dit, ah, c'est trop bien, je vais arriver à la fac, je vais arriver dans les amphis, puis on va pas m'interroger. Sauf qu'il y a les cours annexes. Et dans les cours annexes, il y a un mec qui, on était nos listes, enfin nos prénoms sur des listes, et il disait, qu'est-ce qu'il en pense, monsieur Caplin-Baptiste? Et j'ai fait, ah non, merde, non, si on part à la fac, j'arrête. Et j'ai arrêté la fac pour faire un one-man show, donc ce qui est complètement paradoxal, mais je détestais parler en cours. Donc
le premier one-man show, c'était Se tape l'affiche ou
c'est... Ouais, Se tape l'affiche, ouais.
Ça, c'était le premier.
Le premier.
Baptiste Caplin, Se tape l'affiche. Exactement. Et le BAFA, alors, mais quel genre de moniteur vous étiez en colo?
Ah, j'étais cool. J'étais l'animateur des ados.
Quelle spécialité?
Ah, je sais pas, j'ai tout fait. J'ai fait plein de trucs. J'ai fait multisport. Après, j'ai travaillé pour un organisme qui s'appelle Look Voyage. C'est le Club Med, mais en beaucoup moins cher.
Là, ça leur fait une pub gratuite.
Ah, ça leur fait une pub gratuite. Ah, bah, excuse-moi, pardon. Ils en ont besoin, en plus, les pauvres. Mais donc, j'étais animateur, j'ai travaillé à Marrakech pendant 6 mois, et après, j'ai fait des colos.
Et ça, c'est un bon plan pour draguer ou pas?
Moi? Bah oui, j'ai fait l'amour à 23 ans. J'ai fait ça de 18 à 22.
C'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites dans le spectacle.
Mais non, c'est la vérité. Enfin, non, mais c'est la vérité.
Est-ce qu'on peut être moniteur dans une colo
avec
à Marrakech,
des
jeunes? On fait avec... pas l'amour non, avec des enfants,
d'ailleurs. Ah non, mais je me faisais. Non, mais après.
Il n'y a pas que des enfants dans le club de vacances dont tu parles.
Non.
Il y a les mamans aussi.
Il y a les mamans, ouais. Non, puis il y a les filles qui viennent en groupe de filles qui ont très faim. Mais moi, j'étais. Il y avait des animateurs franco-marocains qui étaient beaucoup plus beaux que moi. Non, moi, je me faisais charrier par les animateurs, c'était un vrai truc.
À cause des coups de soleil.
À cause des nanas que j'arrivais pas à choper. Et donc, non, mais c'était pas un truc ultime. Moi, j'avais été faire animateur là-bas pour faire des skates, juste ça. J'y allais vraiment que pour ça.
Ce qui est formidable, en tout cas, c'est que tout ce que vous avez vécu, qui peut paraître désespérant et nécessiter des années de psychanalyse, vous a permis d'écrire les spectacles, justement, et de faire rire maintenant les gens.
Bah ouais, on s'en sert. Ça permet de faire un petit peu d'autodérision, mais tout ce que je raconte est vrai, ouais, bien sûr.
Maurice Barthélémy, lui, à l'époque, écoutait les Black Eyed Peas. Qu'est-ce que c'était bien, ça.
Je pense qu'à l'époque, j'avais des cheveux encore.
Ouais, vous avez eu des cheveux?
T'en as eu?
Ouais, j'ai commencé à les perdre à 18 ans. Et donc du coup,
comme Giscard,
comme ça me faisait quand même un peu flipper, j'ai demandé à une infirmière de venir me faire des piqûres dans les fesses tous les matins.
Pour pas perdre les cheveux.
Ouais,
mais il fallait les faire dans le crâne.
Des piqûres de Bepanthène. Ah. Et au final,
j'ai
laissé tomber.
Une touffe énorme sur les fesses, et rien sur la tête.
Et rien sur la tête, c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait le faire.
Et là, j'ai écrit creux.
Maurice, vous passez derrière la caméra pour Casablanca Driver. Ouais. Ça, c'était. Donc, on est à la fin, là, des Robin des Bois.
Oui, exactement. Ouais.
On a déjà beaucoup raconté tout ce qui s'est passé autour de Farouche, Canal et autres. Mais le virage de sortir d'une troupe aussi. Si marqué, parce que c'était une marque, Robin des Bois, c'est un label, et la preuve, on continue d'en parler aujourd'hui. Et j'espère que ça reste plutôt un bon souvenir avec le recul, parce que saluons Élise d'ailleurs, qui est présente aussi dans votre film. Pas très longtemps, alors il ne faut pas cligner des yeux, mais c'est vous dire si elle a de l'humour. Et Élise, elle a vraiment de l'humour, parce que accepter. Ça se compte en secondes, je pense, en temps de présence.
Oui, ben là, c'était une apparition, mais je corrigerai la prochaine fois.
Vous la corrigerez la prochaine fois. Très bien, la voilà prévenue. Non, mais dans quelle angoisse est-on de se retrouver seul à porter un scénar, à le réaliser ?
En fait, quand on s'est séparé avec les Robin des Bois, ça s'est fait vraiment de façon très naturelle. Je pense qu'il était temps, après avoir fait du théâtre, de la télévision et du cinéma, que chacun suive son petit bonhomme de chemin. Donc ça s'est fait de façon très naturelle. Et on avait surtout envie, chacun, de développer nos propres univers. Donc il n'y a pas eu d'angoisse. Et aujourd'hui, on se retrouve tellement avec bonheur tous. Quand on se retrouve, ce qui est plutôt rare.
Il n'arrive jamais.
Puisqu'on se déteste, donc je vois aucune raison de se retrouver. Mais ça se passe.
Non, il n'y a pas eu d'angoisse. Il n'y a pas eu d'angoisse. Au contraire.
Il n'y a pas de rancœur. Il y a
pas de rancœur. Et puis surtout, ça nous permettait vraiment de faire ce qu'on avait envie de faire et qu'on avait un tout petit peu mis de côté dans l'expérience de groupe.
Et dans le film, le film que vous réalisez cette année-là, vous jouez un boxeur.
Oui.
Le plus mauvais boxeur en fait de tous les temps.
Exactement.
C'est ça l'idée en fait, c'est ça qui est génial.
C'est ça, c'est un faux documentaire sur le plus mauvais boxeur de tous les temps.
C'est génial.
Voilà.
L'idée.
Et
t'as une gestuelle dans ce film qui est incroyable.
C'est
t'as une rapidité de coup, il y a aucune puissance. il y a des scènes mais extraordinaires.
Et tu sais que je m'étais entraîné pendant 3 mois avec un champion de France de boxe pour faire ça. Hein.
Ah ouais.
Donc j'avais fait sérieusement.
Non mais dans les esquives, t'as vraiment des gestes. Non mais c'est très, c'est vraiment très très marrant.
Il a un sens de l'opposition. Maurice Barthélémy pour mais c'est ça sûrement,
non,
ce qui
fait
la force.
Lui en boxeur, c'est incroyable. Faut juste le voir, juste avec les shorts longs qui t'arrivent à la cheville.
Non, le short était normal. En 2012, premier rôle au cinéma pour Baptiste Caplain qui écoutait du Ben Mazué.
T'es trop près quand tu souris en me regardant, quand tu démystifies mon visage tout blanc, t'es trop près avec tes lèvres et tes joues, avec ta peau, son odeur et tes bijoux. Je les entends blinguer contre ta peau, je les entends sauter coller à ton épaule.
Vous la connaissez par cœur cette chanson? Et chanter, écrire des textes et vous amuser avec ça.
J'adore Ben Mazué, c'est un très bon ami à moi que vous recevez très souvent ici.
Absolument.
Mais moi, non, j'écris pas de chansons, mais j'accompagne modestement Ben parce qu'il c'est quelqu'un qui est extrêmement drôle et sur ses concerts, il essaye de ramener une partie stand-up et quand il a envie, il m'appelle et j'ai eu la chance d'écouter son 3e album qui est juste un bijou incroyable. Ça va sortir à la rentrée, vous allez le recevoir, je pense. Mais c'est un auteur-compositeur. Interprète absolument incroyable.
2012, c'est votre première apparition au cinéma.
Oui.
Est-ce que vous vous souvenez encore du jour où vous avez su que vous obteniez ce rôle au cinéma devant la caméra de
Géraldine? Ils l'ont filmé d'ailleurs, Géraldine et Hervé, ils l'ont mis dans les bonus du DVD d'ailleurs, je ne savais même pas. Mais non, c'était incroyable, j'étais en scooter et j'étais sur un rond-point et je crois que j'ai fait 4 tours de rond-point en faisant « Yeah !» j'étais trop content. Je jouais le soir au Trévise et je crois que j'ai fait la meilleure présentation de ma vie parce que j'étais content, quoi.
Comme une décharge d'adrénaline avec ça.
C'était incroyable, non, mais parce que c'était vraiment. C'était un gros film qui était très attendu. J'ai fait un premier tour de casting qui était très dur parce que t'es juste avec une directrice de casting. C'était même pas elle, c'était son assistante et elle me donnait la réplique, mais c'était très dur. Et après, je suis revenu et il y avait Leïla Bekti qui était là qui me dit je vais jouer avec toi. Ok, d'accord. Il y avait Hervé Géraldine qui te regarde et t'as l'impression de passer le bac en accéléré. Et c'était incroyable. Et ils m'ont appelé après en me disant on est content, tu viens avec nous.
2012, Maurice Barthélémy a l'idée saugrenue, mais formidable, d'écrire sa bio d'enfant. Et à ce moment-là, il écoutait Adèle.
Ah, c'était
En fait, la bio, elle, était sortie bien avant, bien mais avant, 2012, ouais. C'est l'adaptation au théâtre.
Au théâtre, oui, ça s'appelait « J'ai passé ma vie à chercher l'ouvre-boîte ». Je l'avais écrit à, je l'avais écrit à 18 ans et je m'étais dit « Je vais l'envoyer à France Culture pour que ça soit une radiophonique de France Culture ». Donc, le mec hyper prétentieux. Et donc, je l'ai envoyé.
Donc, quelque part dans les tiroirs de la maison, il y a le document.
Exactement, mais c'est surtout que 5 ans plus tard, je reçois une réponse positive de France Culture.
C'est génial, pourquoi
5
ans
et, parce que c'est la réalité.
C'est la
courrier. Parce qu'ils ont regardé dans Spam et après ils ont trouvé.
Et ça a été pour moi mais un truc hyper important dans mon histoire parce que c'est la première fois que voilà, on validait un travail que j'avais écrit dans ma cuisine.
Et non, donc, puis une philosophie de la vie. Passer sa vie à chercher
l'ouvre-boîte. Oui. Ouais.
Non, mais à chercher quelque chose en tout cas.
Mais non, mais quand je dis l'ouvre-boîte, c'est-à-dire en gros chercher la solution, quoi, quelque part. Donc, ouais, c'est l'air de rien, c'est ça. Voilà.
On va demander deux choses. On va demander à Stéphie et Selma de partir maintenant.
Mais pourquoi ?
Mais parce qu'on va, recevoir Catherine, c'est pour ça. Et qu'on n'a pas le budget pour avoir deux chaises sur un micro. Ah, merci Stéphie Selma.
Enregistre-le ce morceau-là. Ah non, mais tellement fort.
Vous êtes déjà aux États-Unis.
Peut-être que ça vous échappe déjà.
Ciao, merci Stéphie Selma. Catherine. Emily Berissol, Catherine, bonjour, bienvenue à ce micro. Vous êtes médecin, homéopathe, psychothérapeute et vous avez signé un livre qui s'appelle « Émotion, c'est plus fort que moi, peur, colère, tristesse, comment faire face ?» Vous êtes une spécialiste en fait des émotions.
De l'émotion.
Voilà.
C'est
marqué
c'est
comme ça.
Sujet, un petit peu emploi fictif quand même, hein, comme dénomination, spécialiste émotion.
Quand un film annonce les ex, on adore les détester, on est en plein dans l'émotion, on est même en plein dans le tiraillement d'émotions.
Oui.
Vrai, faux, on n'a pas les mêmes points de vue sur les ex autour de cette table.
On n'a pas les mêmes attitudes, mais je pense que l'émotion, de toute façon, est commune à tout le monde. On ne peut pas échapper à nos émotions, même si on essaie de les refouler. Et plus on les refoule, plus elles débordent.
Est-ce qu'il vaut mieux les laisser sortir, ces émotions, ou les retenir par pudeur sociale, parce qu'on ne pleure pas en public, parce que...
Ça, c'est ce que nous faisons. Nous avons des codes sociaux autour des émotions. Les garçons ne pleurent pas, les filles sont censées pas crier, etc. En réalité, l'émotion, c'est tout un mouvement qui nous enseigne à nous-mêmes, qui nous apporte quelque chose à nous-mêmes. Et vouloir refouler ce message caché, intérieur, intime, ça, c'est une mauvaise... idée.
Ça vient de quoi ? C'est notre éducation. D'abord, est-ce que c'est franco-français comme mal ou c'est la planète ?
Non, c'est
une tendance.
7 milliards et demi d'individus qui sont émotifs, mais pas de la même façon. Donc nous sommes tous émotifs, nous sommes tous des émotifs plus ou moins anonymes.
Et la vertu de laisser sortir ses émotions, ça procure quoi ?
Ça procure la possibilité de découvrir quelque chose qui vit à l'intérieur de soi. C'est un témoin de vitalité, l'émotion. Et dans l'émotion, il y a toujours un besoin et un désir caché. Donc l'émotion a comme vocation de nous informer sur ce désir de vie qui existent, et notamment dans les situations de rupture.
Mais il y a aussi le regard de l'autre. Quand on ne veut pas pleurer, ce n'est pas uniquement par amour propre, avec l'idée de dire « je suis un adulte, je suis un garçon, je ne pleure pas ».
Ou une fille, mais, je suis un rock.
Voilà, c'est mais ça. Mais il y a aussi cette de ne pas trop vouloir révéler à l'autre. C'est pas uniquement de l'amour propre, c'est aussi de ne pas trop en dire.
Nous sommes... informer à la fois nous-mêmes de ce qui nous arrive, c'est-à-dire une rupture sentimentale ou un choc, un deuil, etc., est par nature bouleversant. Et ce bouleversement a lieu dans un univers dans lequel il y a le regard des autres. Des autres qui sont eux-mêmes des émotifs.
C'est pour ça que c'est beau d'aller au théâtre, au cinéma, de lire des livres, parce qu'on peut pleurer au théâtre.
La catharsis,
fameuse.
Sans être ennuyé par le regard de l'autre, puisqu'il est dans la même position que nous.
C'est permis.
Et oui, c'est autorisé.
C'est autorisé, c'est permis, c'est même encouragé.
Ouais, c'est encouragé.
Et donc, que ce soit au cinéma ou il y a des films dans lesquels on ne va pas sans Kleenex.
C'est vrai.
Donc, au
théâtre. Une autre marque.
Baptiste Caplan, non.
Ça, c'est vrai.
Baptiste.
Non, c'est Sopalin. C'est pas déjà ça.
Essuie tout.
Une serviette éponge.
Donc, nous sommes tous animés.
Pardon.
Nous sommes tous animés par cette dynamique, ce mouvement intérieur. Parce que émotion, c'est une histoire de mouvement. Émotion, c'est motivation, mouvement.
C'est ça.
Donc, c'est ce mouvement qui nous informe du fait que nous sommes un être vivant. Et donc, vulnérable, sensible et que toute situation dans laquelle on a la mémoire complètement encombrée par les histoires que nous avons vécues avec nos compagnons ou nos compagnes, et puis la réalité qui est la rupture. Et donc il y a un véritable chantier à l'intérieur du cerveau entre ces deux informations, la mémoire puis la réalité.
Alors justement sur les ex, encore une fois autour de cette table, tout le monde n'avait pas la même, le même regard, la même position, mais c'est même pas un regard de genre d'ailleurs, est-ce que les filles, les garçons, chacun réagit en fonction de, ouais, de son vécu et de son genre relationnel, mais est-ce qu'il y a une règle par exemple entre celui qui est quitté ou celui qui quitte et qui n'a pas le même ressenti avec l'ex? J'imagine que oui, celui qui quitte.
Oui, évidemment, celui qui quitte se dit et vit qu'il a des raisons de quitter et donc il s'appuie sur ces raisons qui sont le comportement de l'autre.
C'est pas des raisons, madame, c'est un soulagement.
Alors ça, c'est ce qu'on appelle un ressenti.
Mais tu peux aussi avoir de la culpabilité aussi.
C'est autre chose que les raisons.
Non mais Nagui, tu peux avoir de la culpabilité quand
j'ai
tu
l'as dit. C'est un sentiment qu'il ignore totalement.
J'ai rien dit.
Mais d'autres oui, c'est-à-dire c'est j'abandonne, je suis vraiment le dernier ou le dernier des dernières.
Oui, mais de dire
ça. En même temps, c'est du soulagement.
Voilà ce que j'ai dit.
C'est pas incompatible.
De dire ça, vous poussez aussi ceux qui ont l'hypocrisie de ne pas quitter. Justement, ou de, et qui trompe en se disant je vais pas la quitter, mais je parle des garçons, je vais mener une deuxième vie.
Il en parle bien. Hein.
Non, mais c'est, je ne supporte pas ça justement, et de dire je ne t'aime plus, je te quitte, quitte à ne pas avoir d'ailleurs une autre histoire.
Je comprends plus rien à ce qu'il raconte
derrière. Voilà.
Ce qu'il faut entendre avec l'émotion, c'est que l'émotion a vocation de nous parler de nous-mêmes. Ce qui fait que même quand nous racontons que c'est pour ne pas faire de peine ou pour ne pas abandonner, il y a quelque chose d'intime dans l'émotion et c'est ça que nous avons intérêt à entendre. C'est que l'émotion, ça parle d'abord de soi, avec l'autre, en face de l'autre, mais de soi. Et donc c'est ça qui est à récupérer dans l'émotion. C'est comment le drame que je vis ou le soulagement que je vis parle de moi dans la situation que je suis en train de vivre face à cet autre-là.
Et l'émotion alors de retrouver une ex et ce qui
c'est
est
bouleversant.
Totalement le cas du film et voilà et d'en être ému au point de remettre tout en cause.
Absolument. Et il y a pas mal de couples qui se reforment avec 10, 15, 30 ans de distance par la rencontre avec un ancien ex que l'on retrouve
qu'on
soit délibérément.
Mais ça, c'est une tendance sociétale, là. C'est la tendance du 21e siècle.
Parce que ça rassure,
on connaît la personne.
Ça rassure, mais c'est une part de soi.
Que tu te dis finalement, il était pas si mal.
Ouais,
en plus, mais c'est surtout une part de soi. C'est une part de soi.
Ça vous est arrivé, vous, personnellement?
Ça se voit, Catherine.
Non, c'est arrivé à une sœur, à une de mes sœurs.
Oui, bien sûr, c'est à une sœur ou à une amie, on connaît l'histoire.
C'est comme ça. Non, c'est une belle histoire, en plus.
C'est à Aurore. C'est arrivé à Aurore, c'est ça?
Non.
Bon, pardon. Mais...
Marcel.
Non plus.
J'ai une question. Est-ce que la gestion des émotions varie selon les cultures? Est-ce que,
oui.
J'ai un peu le sentiment qu'en France, on garde nos émotions beaucoup par rapport aux Espagnols ou aux Italiens ou même aux pays du Maghreb, non?
Plus on monte visiblement dans le Nord, plus il y a cette culture
retenue.
Qui tend
les Esquimaux,
à être retenue.
Les Esquimaux, j'aime dire qu'ils ne ressentent pas grand-chose.
Ils gardent la chaleur intérieure de l'émotion, sans doute. Mais effectivement, il y a autant de culture de l'émotion qu'il y a de personnes dans des lieux différents. Ça ne change rien au fait qu'il y a des racines communes à l'humanité sur le fait d'être ému, avec des mécanismes en termes de sensations, en termes de réactivité. On cherche à éviter, on lutte, on est en colère, on est triste, etc. Donc ça, c'est commun. Mais effectivement, l'émotivité, c'est-à-dire que c'est toute la culture émotionnelle et n'est pas commune, elle. Ce sont des façons de communiquer avec les autres à partir de ce qui est vivant et bouleversant chez soi.
On parle de ceux qui se remettent avec les ex, mais ceux qui ne veulent plus entendre parler de leur ex. Est-ce que ça, c'est une manière de nier son passé, voire de le regretter?
C'est surtout une façon de se protéger.
Et de ne pas payer la pension alimentaire, par exemple.
Non, justement pas.
De continuer à se protéger, c'est comme si l'autre demeurait un danger. Et donc, on n'y retourne pas. On a eu trop mal, on n'y retourne pas.
Oui, mais il y a un truc qui peut s'appeler la haine aussi.
C'est du même ordre. Donc la haine, c'est du rejet.
Ouais.
Et puis il y a l'évitement. Donc soit je rejette l'autre, soit j'évite l'autre. Oui, ça, c'est très archaïque.
Mais est-ce que c'est se rejeter soi-même aussi? C'est de se dire comment ai-je pu?
C'est malheureusement souvent une façon de se rejeter soi-même, ce qui fait que du coup, on ne fait pas le travail. Et le travail qui consiste à dire qu'est-ce qui s'est passé chez moi qui fait que je suis restée avec cette femme, avec cet homme. Et ça, c'est extrêmement apprenant, parce que grâce à ce questionnement-là, c'est là où on arrive à cicatriser et c'est là où on arrive à se réconcilier déjà avec soi.
Il y a une scène extrêmement drôle, enfin de nombreuses scènes extrêmement drôles dans le film, mais il y en a une que l'on a peut-être déjà vécue, que vous avez peut-être déjà vécue, celle de l'enterrement où on est pris d'un fou rire, parce que c'est la situation qui, évidemment, est en total décalage avec ce qui se passe. Là, ce sont quoi ? Deux émotions qui s'entrechoquent. Qu'est-ce qui fait que dans des enterrements, au moment où tout le monde est en train de pleurer, il peut y avoir un fou rire qui se déclenche ? C'est du même ordre que quand à l'école, le prof dit « taisez-vous, silence » et on essaye de le retenir et là, bim, 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 ça monte
j'ai
trop
vécu,
fort.
J'ai vécu un fou rire à la mort de mon grand-père que j'adorais. Donc c'est un souvenir très mitigé. Parce que à la fois j'ai perdu cette figure qui était extrêmement importante pour moi et prise d'un fou rire communicatif avec mes autres sœurs et qui est dans la compréhension que j'en ai aujourd'hui, à l'époque j'en ai eu extrêmement honte, mais dans la compréhension que j'en ai aujourd'hui, c'est cette espèce de puissance de vitalité qui existe en chacun et que face au chagrin que j'éprouvais dans lequel j'étais totalement effondrée, une sorte de vitalité et que n'importe quelle parole, situation déclenche cette vitalité à travers un rire, une euphorie, une espèce de gloussement, mais qui est l'expression de la vie, c'est l'expression de la puissance vitale qui de toute façon nous anime et qui fait que nous pouvons réagir de façon décalée par rapport à la situation.
Et plus on cherche à le retenir, plus évidemment c'est impossible.
Et ça arrive souvent quand on enterre une ex d'ailleurs.
et qu'elle est encore vivante, pour toi.
Mais ça va pas.
Catherine aime les périssoles, co-signe avec sa sœur, donc Aurore.
Ma fille.
Votre fille, pardon.
Oui,
pardon,
Aurore
pardon,
est
pardon,
ma fille.
Pardon. Que vous parliez beaucoup de vos sœurs,
mais
je pensais.
Oui, mais Aurore est ma fille, pardon. Elle est journaliste.
Émotion, quand c'est plus fort que moi, c'est publié chez Le Duc. Et édition, vous êtes un spécialiste des émotions et vous merci d'être venu nous éclairer en
avec
tout cas
plaisir.
Là-dessus.
Et puis j'ai découvert que je pouvais aider mes patients peut-être dans leur rupture en les faisant chanter.
Ah oui.
En faisant imaginer une chanson.
Ah, de révéler des trucs sur eux. Non,
qui viendrait interpréter au cabinet. Tout seul, en groupe, etc. C'est une excellente
piste. Allison, tu as enfin trouvé un métier.
Oui.
un vrai boulot un jour.
Daniel Morin, on le voit en tout cas, on n'en a jamais fini avec ses ex. Comme le dit le sous-titre du film, on adore les détester. Ça peut être plus compliqué, mais il y a toujours un peu d'amour qui traîne.
Oh, et qui pourrait pervers, éventuellement. Terroriste, partouzeur masqué. Taisez-vous, fermez-la, bon Dieu. Physiquement, fermez-la, hein. Collez vos lèvres. Je vais craquer, bon Dieu, je vais claquer la porte. Je préfère encore le chômage, vendre mon corps sur les maréchaux, à quatre pattes, sous la pluie, sur le bitume, que de subir vos analyses frelatées. Car non, monsieur Guy, les ex sont nos ennemis. Même quand, comme moi, il s'agit souvent des membres de ma famille. Vos ex vous renvoient l'image de l'échec de la relation sexuelle décevante. Je parlais encore hier avec l'ex de Leïla Kadour Boudadi, l'homme qui va décéder professionnellement ce soir à 20h35, David Pujadas. David, qui les yeux remplis de larmes me disait souffrir le week-end devant le 20h de la Gazelle, aussi sarrasine que nymphomane de l'info. Après, peut-être suis-je trop sensible, peut-être que je m'emporte. Je vais donc demander l'avis d'un expert en ex. Bonjour mon père.
Bonjour Daniel.
Vous entretenez quelle relation avec vos ex ?
Mais enfin,
j'ai... Oh non, pardon ! Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris de vous poser ce genre de question à laquelle vous ne pouvez évidemment pas répondre.
Mais comment ça, je ne peux pas répondre ?
Enfin, vous êtes prêtre.
Et alors ? Sache que j'ai une vraie sexualité de Polonais, mon garçon.
Ça veut dire quoi, une sexualité de Polonais ?
Mais j'en sais rien, c'est toi qui as écrit ce papier-là.
Ok, poursuivez.
Eh bien, tout prêtre que je suis, des ex, j'en ai, et un paquet même.
Et vous les revoyez de temps en temps et vous succombez à la rechute sentimentale parfois ?
Le plus souvent possible.
Par amour, comme le sous-entend Monsieur Guy ?
Par amour ? Non, par vice.
Merci mon père. Alors vous voyez, Monsieur Guy, en matière d'ex, l'amour et ses restes n'ont rien à voir à l'affaire. Une fois encore, désolé, mais vous avez dit...
N'importe quoi. Merci Albert Algou, merci Daniel Morin. Nos invités, Maurice Barthélémy et Baptiste Capin jusqu'à midi et demi. C'est la bande originale. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec Leïla Kadour Boudadi.
Bonjour à tous.
Alison Wheeler. Du célèbre duo Selma Wheeler.
Ouais.
Il y a aussi Daniel Morin qui est là.
Bravo Daniel.
Albert Algou.
Bravo.
Et nos invités Baptiste Caplain et Maurice Barthélémy. Bravo.
Ah, oui.
Les ex que l'on déteste comme ceux
il y a un souci.
Que l'on aime.
J'ai l'impression qu'il y a de la haine. On ne
regrette jamais d'avoir aimé. Enfin,
il y en a certaines à qui ça.
Il
pense à quelqu'un.
Ah ouais, à plusieurs personnes.
Nagui, tout ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas.
J'ai jamais mis les pieds à Las Vegas, tu sais.
Jamais ?
J'ai jamais mis les pieds.
Quel ennui.
C'est horrible.
C'est vrai ?
Ah ouais, c'est très glauque. J'ai brunché à Las Vegas. T'as que des gars de lendemain de jeu qui sont déprimés. Non, c'est très glauque. Hein.
C'est juste brunché.
C'est qu'au cinéma.
Ouais, j'ai brunché, c'est vrai.
C'est qu'au cinéma qu'il y avait Very Bad Trip qui était drôle. Quoi.
Ouais, ouais. Non, mais c'est hyper glauque, hein, vraiment. Il n'y a pas de fenêtre dans les casinos pour que les gens aient pas la notion du temps. Pour qu'ils
qu'ils voient pas s'il y a la lumière.
Ouais, voilà, exactement, bien sûr. Il n'y a que des trucs comme ça. Ouais.
Ils ne se suicident pas quand ils ont perdu.
Exact, ouais, ils vident le PEL.
Apparemment, tu ne travailles plus chez Look Voyage, hein, parce que là, la pub pour Las Vegas, c'est fini. Hein. Pas vendu du tout. Les Ex, donc, ce très bon film qui sortira le 21 juin. On adore les détester avec un casting de dingue. Jean-Paul Rouve, Patrick Chesnay, Arnaud Ducret, Baptiste Caplin qui est notre invité, Stéphie Selma qui est venue faire la bonne surprise tout à l'heure avec ce duo avec Alison Wheeler, ouais. Judith Elzan qui est parfaite aussi en animatrice radio, mi-psy d'ailleurs, mi-animatrice, hein, le ton de la voix très posée, très ouais. calme, qui interviewe Jean-Paul Rouve, auteur de...
Un peu inspiré par
quand j'ai Macha,
les Macha, ouais, ouais, moi j'ai écouté Macha sur Inter, donc
une voix incroyable.
Elle avait une voix hyper sensuelle. Ouais.
Également présent donc Natacha Lininger, Alice David, Zoé Duchesne, Claudia Tagbo qui est dans un rôle de lesbienne qui en veut au nouveau mec de son ex fiancé d'être avec elle et en policière qui on va dire quoi franchit les bornes par moment.
Franchit les limites ou dépasse les bornes.
Dépasse les bornes. C'est ça. Voilà, c'est... Tu me rendras mon livre français parce que
je vais te faire un petit récap.
C'est gentil. Amaury de Créancourt. Si voilà, j'essaie de dire le plus de comédiens possible parce que évidemment c'est un film choral. Oui, mais au-delà de ça, ils ont tous une place et une importance dans ce film. Ouais. Ce qui ne doit pas être simple d'ailleurs à diriger, Maurice Barthélémy, parce que vous le réalisez, vous jouez dedans, vous l'avez écrit.
Effectivement, j'ai un peu chargé la mule. Mais non, c'était pas si compliqué que ça parce que finalement c'est comme un tournage normal. Tous les jours on a des séquences avec tel ou tel acteur. Effectivement, c'est plus au moment du montage pour créer l'équilibre que se pose le problème.
Ouais, si y a une scène coupée et que c'est la seule scène ou l'une des rares scènes d'une personne.
Exactement. Là c'est chaud. Et là, curieusement, c'était plus sur mon personnage que j'avais des problèmes. J'avais tendance à couper beaucoup mon personnage.
Alors, mais c'est ce que vous avez fait, je pense, parce que je vous trouve pas très présent, oui. Vous n'êtes pas omniprésent, il n'y a pas de rôle principal en fait.
Mais c'est-à-dire qu'à l'écriture au départ j'étais plus présent et puis plus je me voyais, moins je m'aimais, donc je me coupais.
C'est comme autour de la table, vous n'êtes pas tellement présent là, on n'a pas beaucoup d'efforts.
Non, parce que ce qui est chouette aussi dans ce film, c'est que les personnages, on les suit, on apprend à les comprendre avant qu'il se passe quelque chose dans leur vie. Ils sont développés, donc ils sont. C'est pour ça qu'on peut avoir une frustration sur votre personnage à vous,
qu'on connaît
moins.
Oui, effectivement. Mais ça, je dois vous avouer que c'est les aléas du montage. J'ai eu tendance un peu à me couper, mais c'est sans regret, franchement.
Mais rassurez-vous, on s'attache aussi à votre personnage même. Ça marche, ça fonctionne. Il y a le chien, on n'a pas parlé du chien.
Non, moi, que les autres. Oui, moins que les autres.
Hein, oh non, arrête.
Et le chien.
Ah, le chien, Jean-Claude.
On dit que tourner au cinéma avec un enfant, tourner au cinéma avec un chien, c'est difficile parce qu'il n'y a pas deux fois la même prise et que donc il faut être tout de suite juste parfait parce que on ne sait pas si le chien, tout éduqué qu'il est d'ailleurs, fera les mêmes
gestes. Il était avec une dresseuse qui était très cool, qui s'appelle Chloé, qu'on salue, et on a vécu un petit drame, on peut le dire ou pas?
Ah oui,
vas-y. Deux semaines avant la fin du tournage, la dresseuse avait dit, il est un peu fatigué, c'est des chiens qui vivent 10 ans max, quoi, tu vois. Et le chien avait 10 ans, donc elle nous avait dit, pour la fin du film, ça va aller normalement, mais on ne sait jamais, quoi. Et avec Maurice, on faisait des vannes, t'imagines, on va faire comme The Crow, Brandon Lee qui meurt avant la fin et tout. Et Maurice m'appelle deux semaines avant, il dit poto, le chien est mort.
C'est pas vrai.
Le chien est mort.
Il a fait un AVC.
Il a fait un AVC.
Il a fait un AVC, pas du tout à cause du tournage, mais.
Non.
C'est ce que vous dites. Hein.
Non, il était vraiment fatigué.
C'est ce qui fait que c'est vous qui faites la promo maintenant, parce qu'initialement tout était.
Non, c'est le chien. C'est le chien qui était là, bien sûr. Ouais. Et donc on a pris un
acteur qui a remplacé le chien.
Ouais. Vincent Fernandez, qui avait fait déjà la suite de The Crow, il est venu en chien, il était génial. Et non, on a pris une femelle, au début c'était un mâle, c'était une femelle qui ressemblait un petit peu et qu'on a dû maquiller un œil pour faire vraiment pareil.
Pour qu'il y ait les mêmes.
Donc il y a une scène dans le film où c'est pas Jean-Claude.
Vous parliez de Shabat tout à l'heure, vous auriez pu le prendre.
Oui, Didier.
Didier.
Quelle référence.
Quelle
référence.
Comment va Chloé? Ça va Chloé?
Chloé? Ouais, ouais, Chloé, elle va très bien. Non, elle était très triste. Non, mais elle était très triste, vraiment. C'était, non, c'était dur, hein, parce que.
Ah, bah ouais, c'est affreux.
Non, non, bah ouais, ça lui faisait des revenus en moins. Et, non, non, mais non, mais non, mais c'était, c'était un micro-drame, mais, le chien était vraiment cool. Et puis, il a une gueule tellement, tellement drôle, ce chien. Il est incroyable.
Est-ce que diriger autant de comédiens, Maurice Barthélémy, se pose à un moment la question aussi de l'ego, la question de la place de l'un par rapport à l'autre? Est-ce que.
Non. Parce que moi, je fais vraiment attention quand je choisis des acteurs au départ, que ça soit des gens dans la vie sont cool. Et ce qui fait que sur un plateau, moi, j'ai
là,
jamais
Baptiste
eu aucun
Capin,
problème.
Vous ne le connaissiez pas.
Je le connaissais pas, mais je sentais que c'était. Déjà, on est né le même jour, donc c'était un. C'était un...
Ouais. Économie de gâteau d'anniversaire au catering.
Exactement. Tout compris.
Non, puis voilà, moi, c'est. Je sais que j'ai jamais eu aucun problème avec mes acteurs, parce que dès le début, par instinct, je sais que je vais choisir quelqu'un qui va pas m'embêter.
Ce qui n'est pas le cas de moi lors du casting, puisque Daniel Morin est encore là. Le voici pour son numéro.
J'ai une vie pourrie. Vie pourrie, mais heureusement, aujourd'hui, belle journée. Non seulement on reçoit des artistes de talent, mais c'est un jour spécial, c'est la journée mondiale des océans, Nagui, figurez-vous.
C'est beau, il faut les protéger.
Je suis d'accord, mais au final, qu'est-ce qu'on en a à faire des océans? Ça ne sert à rien. Les océans, on ne peut même pas marcher dessus, sauf si on s'appelle Jésus, et encore... J'ai un doute. J'ai pas vu les images.
Mais ne te moque pas, Daniel.
Ah, mon père, vous êtes là. Comment allez-vous?
Mal. J'aime pas quand tu te moques de la nature.
Bon, ça va, c'est bon, y a pas de mal. Mais
les océans, c'est important. C'est la source de toute vie. Respecte la vie et le plancton aussi, mon enfant.
Bon, ok. Je vais faire un effort. Eh oui, aujourd'hui, les amis, c'est la journée mondiale des océans. Vive les océans, vive la mer et les poissons. Respectons les marées, les sardines et les thons, les crevettes, les rascasses, les sirènes, les espadons. Oui, oui, oui.
Stop! Non, mais là, tu en fais trop, Daniel.
Ben, faudrait savoir.
Tout est dans la mesure. Les océans, ce n'est pas que beau. C'est également la convivialité. Je me souviens de cette époque bénie où j'étais parti comme aumônier sur un bateau de pêche ukrainien. C'était beau et génial à la fois.
Ça existe, ça, aumônier de bateau de pêche?
Mais bien sûr. Après, j'ai fait aumônier bateau mouche sur la Seine, puis aumônier croisière sur le Costa Concordia, puis...
Oui, c'est bon, on a compris. Et qu'est-ce qu'il y avait de beau et génial à la fois sur un bateau de pêche ukrainien?
J'ai fait des rencontres merveilleuses. L'équipage, composé de dizaines de nationalités, me donnait comme un tournis aussi euphorisant que cosmopolite.
Vous avez noué des contacts spéciaux avec certains marins?
Oui, très spéciaux même. J'étais très proche d'un machiniste. Il s'appelait...
Oh, mais non.
C'était un Albanais.
Il a craché.
Amputé du bras gauche et qui avait perdu sa langue dans un engrenage de moteur. Il était d'une beauté féroce et douce à la fois.
Il s'appelait comment?
Mais comment ça?
Eh bien, féroce, par exemple,
oui,
quand il me croisait dans la salle des machines, où involontairement, je m'égarais, faisant mine de chercher la douche, vêtu d'une serviette minimaliste autour du bassin, et que, furieux d'être dérangé, il me sautait à la gorge, et après m'avoir projeté au sol, me balançait des coups de baramine dans la gueule. Une fois, il m'a même bouffé un morceau d'oreille.
Ah oui, je comprends mieux le côté féroce. Et le côté doux?
Ah, le côté doux. Oui, c'était juste après m'avoir tabassé, tambouriné et humilié, quand en sang je gisais sur le sol comme une vieille carcasse de blaireau renversée par un tracteur, il me ramassait et me donnait un bain.
Oh, sympa.
Très. Puis il cautérisait mes plaies en bavant dessus. La bave de... était fort coagulante et cautérisante.
Ça fait rêver.
Et enfin, la douceur prenait tout son sens albanais quand il me portait sur sa couche et qu'après m'avoir enduit le corps de graisse à chaudière, il me mettait une perruque et tentait de me faire un enfant.
Pour fonder une famille, comme c'est mignon.
Mais non, tu n'y es pas.
Qu'est-ce que c'est?
Faire un enfant pour le vendre à des trafiquants d'organes.
Ah, l'albanaise, quoi. Merci, mon père, merci. Alors, comme quoi, hein, la journée quelle mondiale horreur. Des océans, ça mène à tout, même à l'amour, enfin, en apparence.
Excuse-moi, Daniel, mais pour être d'accord avec le thème du film de nos invités et pour parler des ex, je vais vous raconter comment, et moi, nous nous retrouvâmes un soir d'été à Ibiza à l'occasion d'une soirée punition et art de vivre organisée par Monseigneur Di Falco et Gérard Collomb.
Oui, je me doute, c'est passionnant, mais on n'a pas le temps, mon père. Désolé, à demain.
Merci, Daniel Morin, bienvenue.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
The only one for me is you, and you for me, so happy together. Nino Ferrer.
C'est la version crooner d'Happy Together.
Ouais.
Mais je sais pas qui l'interprète, mais en tout cas, c'est partie de la bande originale du film.
Effectivement, c'est la musique du générique du début. Je peux pas vous en dire plus.
Mel Tom, c'est ça le nom que l'on me glisse. Voilà, Mel Tom. Mais je voulais que l'on entende aussi la musique, parce que c'est une vraie comédie romantique. On l'a pas assez dit, évidemment, qu'il y a beaucoup d'humour grinçant, d'humour noir, d'humour décalé, d'humour extrêmement contemporain. Mais ça reste aussi des histoires d'amour qui se croisent, qui s'entrecroisent, qui s'entrechoquent et qui se mêlent les uns aux autres. Et la musique aide à ce sentiment de quatre mariages à l'enterrement. Enfin, moi,
exactement,
j'ai vraiment vu.
C'est le genre qui veut ça, quoi. Ouais. C'est-à-dire de mettre, il y a notamment du George Michael à la fin avec Face.
Ah
et,
ouais.
Et donc, c'est quand on va voir ce type de comédie, ben, on attend d'avoir une grosse bande son, et c'est le cas, je crois.
Wouh! Baby!
C'est un enfant.
Ah, il m'a fait peur.
Il attendait le moment.
Voici le brouillon de culture de l'élection.
Bah, oui. Voilà, Baptiste, Maurice, je vous sors de la promo un petit bol d'air. C'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un premier son pour vous, Baptiste.
Aujourd'hui, on est le 14 avril 2017 et c'est mon anniversaire. Et là, je vais peut-être vous choquer, mais j'ai 30 ans. Et ouais, mais franchement, je le vis plutôt bien.
Normal.
C'est Norman.
Oui, c'est Norman.
Le youtubeur, et je crois que c'est votre sosie.
Ah oui, on me confond énormément.
Ah bon?
Norman.
Non,
bah ouais, si, quand je suis rasé de près, parce que là, je laisse pousser, ça me prend trois mois à voir ça. Mais j'ai été. Non, mais j'en parle dans la fin de mon deuxième spectacle, où j'ai vécu une soirée cauchemardesque, et le veilleur de nuit m'a parlé pendant 10 minutes en me disant qu'il adorait ce que je faisais, mais il se souvenait pas de mon don, et il m'a dit bon, bonne nuit Norman, j'ai eu 10 minutes d'échange de compliments d'un gars qui m'a confondu.
Si quelqu'un vous a dans la rue, vous tend un papier en disant est-ce que je peux avoir un autographe Norman?
J'ai fait pied à Roland Garros, on m'a confondu avec Julien Doré, et la fan m'a dit mais t'as enlevé tes tatouages, et je dis ouais pour un film c'était mieux, donc j'ai fait un selfie en Julien Doré.
Moi on me confond avec Bernard Campan.
Ah ouais?
Ah ouais. Ah ouais.
Et aussi, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, hey, les guignols, ça va? Putain, non, les gars, non, pas les guignols.
Jean-François Alain. Qui est un peu dégarni, lui aussi. Exactement. C'est pour ça.
Si c'était chez le proctologue, c'est normal. Allez, visuel. Merci. Oh, merci, Nagui.
Attends, jingle. C'est triste.
Norman.
Jingle Van, il est triste, celui-là. Il est triste.
Norman, que vous connaissez, Maurice, puisque vous l'avez fait tourner dans Pas très normal.
Activité. Exactement.
Là encore, c'est cette envie d'aller voir la nouvelle scène.
Exactement. D'aller justement puiser chez cette nouvelle génération spontanée là qui s'est faite dans leur salon, et c'est un garçon extrêmement précis, et c'était très agréable ce tournage avec lui et avec Stéphie qui était là tout à l'heure. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont envie, quoi. Quand ils arrivent sur un plateau, ils sont contents d'être là. C'était le premier film de Norman, et il était tellement heureux de faire ce film. Ça a été un grand
bonheur. T'as dû vous changer avec Patrick Chenet.
Chenet est très très joyeux sur un plateau.
Et vous allez beaucoup voir des spectacles. Est-ce que c'est quelque chose d'important de faire une forme de veille?
C'est important de le faire. Moi, je peux pas le faire parce que je me couche tôt. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure,
je
bois la tisane. Donc j'ai un peu des difficultés. Donc je vais voir des one man shows à 9h du matin.
Mais il y a des matinées, vous savez, le week-end.
Oui, exactement. Non, mais évidemment que c'est hyper. Voilà, Alison aussi fait partie de cette génération. C'est hyper important d'aller les voir. J'adore ça.
Et Baptiste aussi, même chose. On continue à repérer les concurrents, les copains, parce qu'il y a potentiellement c'est des concurrents, mais aussi ça peut être des associations pour faire des projets.
C'est surtout des copains. Ouais, c'est des soutiens. Et puis voilà, moi. Je vais rarement voir des spectacles quand je suis en train de jouer les miens.
Ouais.
C'est très fatigant. Mais je vais voir les gens dont je suis ultra fan, et je vais voir les copains. Et j'ai vu notamment, j'ai découvert Blanche Gardin, comme
génial.
Beaucoup de gens, qui est absolument fantastique.
C'est incroyable,
Blanche Gardin. Je vais y retourner, là, d'ailleurs. Elle a prolongé à l'Européen. Mais je vais voir les copains, Kian Kojandi, les copains de Bref qui jouent sur scène, Bérangère Krief. Mais c'est très important d'aller voir. Mais il y a tellement de choses à disposition.
Le dernier One Man de Kian, formidable.
Et ouais, très, très beau.
Ouais.
Magnifique.
Et sur Netflix aussi, des one-man.
Ouais, les humains. J'en parlais encore à Maurice Barthélémy avant l'antenne. Je sais pas pourquoi j'ai rajouté ton nom de famille.
Parce que c'est professionnel.
Professionnel.
On est à la radio, et quelqu'un qui débarque là ne sait pas forcément que c'est Baptiste Kaplan et Maurice Barthélémy.
Mais je regarde énormément d'humoristes anglo-saxons. Et je regarde tout. Comme là, j'ai retrouvé un DVD de Philippe Cobert et je l'ai regardé. Ouais. C'est incroyable. J'adore.
On poursuit avec un son pour vous, Maurice.
En France, les films comiques sont méprisés. Depuis toujours, parce que considéré comme facile, parce que considéré comme vulgaire, voilà.
C'est net, c'est tranché, voilà.
Ben oui. Ça n'a pas changé.
Ça n'a pas changé.
Non. Non, on est toujours méprisé par pas mal de journalistes, par pas mal de gens de la profession, et pourtant c'est ce qui fait rentrer du monde en
salle. Ça a un peu changé quand même.
Ça a un peu changé, mais il y a quand même ce mépris, c'est-à-dire que bon, il y a très peu de comédies à Cannes, il y a très peu de comédies au César, donc c'est un genre qui est considéré comme mineur.
Comme un sous-genre.
Alors que faire une comédie, c'est ce qu'il y a de plus compliqué.
Parce que populaire.
Parce que populaire, oui, c'est un peu dommage.
Et qu'est-ce que vous avez vu récemment en comédie ? Qu'est-ce qui vous anime, vous ? Parce que après, on peut ne pas aimer le genre, mais plutôt ne pas aimer aussi certains films qui ne sont pas réussis, parce que c'est pas parce qu'on est estampillé comédie que voilà. Et en la matière, qu'est-ce qui vous fait rire, vous, aujourd'hui ?
Bah, par exemple, là, je suis allé voir le film de Le Mercier. J'avais très envie de le voir. J'ai été assez content, et en ressortant, parce que on retrouve vraiment le ton Le Mercier. Mais en même temps, moi, spectateur, je vais voir de tout, surtout des films américains. Donc je suis pas un très grand spectateur de films français.
C'est pas grave. Dis pas ça comme si c'était honteux.
Non, c'est un peu honteux parce que je fais des films en France, donc je devrais quand même.
C'est quoi C'est du Judd Apatow.
C'est du Judd Apatow, oui. Mais je regarde aussi énormément de séries. Je dois avouer que je suis pas très fidèle au cinéma.
Bon, et je finis avec un cadeau pour chacun d'entre vous. Pour vous, Maurice, puisqu'on parle des ex, je vais vous parler de JFK. Oh, bah oui. Une histoire sexuelle, c'est signé Georges Ayache aux éditions du Rocher. parce que le coup, il avait une obsession, en effet, une addiction sexuelle. Donc lui, des ex, il en a eu énormément.
Et pourtant, il avait des problèmes de dos qui l'empêchaient de gesticuler beaucoup.
Comme quoi, quand tu veux, tu peux.
un message que tu voulais faire passer à quelqu'un.
Pas du tout.
David, reviens.
Je l'ai dit dans ma tête.
En fait, il était addict au sexe à cause des médicaments qu'il prenait.
Pour son dos. Justement, c'est le paradoxe.
Donc voilà, c'est un livre qui retrace comme ça toute son histoire, toutes ses rencontres, les femmes aussi qu'il a vraiment aimées, parce qu'il était un peu perçu comme une forme de don Juan et de consommateur compulsif, mais ce qui ne peut ne pas empêcher d'avoir des sentiments parfois.
C'est tombé pile poil, j'ai écrit un scénario sur Jackie Kennedy.
Qui est le prochain film en préparation.
Non, il se fera pas parce qu'il y a eu un film qui est sorti récemment qui s'appelle Jackie.
Oui.
Et donc
américain.
Donc il se fera pas.
Pumps.
Il y a américain.
Ouais.
On va faire un film sur Jackie du Club Dorothée.
Et ben voilà, toujours une bonne idée.
Jackie et Michel.
Comme ça, on gâche pas les affiches. Jackie et Michel, voilà.
Un film choral.
Et un cadeau pour vous aussi.
Un film oral, pardon.
Et pour vous, Baptiste, un cadeau aussi. C'est un manga.
Comment on sait que tu sais pas lire, on t'a offert des dessins.
Mais non, parce que, en fait, j'ai pensé à vous, Baptiste, parce que c'est Mob Psycho 100, parce que c'est l'histoire d'un jeune homme qui possède des super pouvoirs psychiques. Ouais. Et j'ai pensé à la série HeroCorp.
J'adore, ouais, merci beaucoup.
Et donc voilà, et c'est l'auteur en fait de One Punch Man qui s'en empare, et c'est chez Kurokawa.
Ah bah, je voulais lire 3 livres cet été, j'en avais que 2. J'ai ça. J'ai la bio de Michael Jordan, celle de Steve Jobs et ça. Donc, super.
Alors justement, mais votre été est un peu pris parce que vous êtes en tournée.
Je suis l'été ?
Oui.
Non.
Vous êtes en Suisse.
Le 20 juin.
Le 20 juin à Morges, en Suisse.
Après. Mais les vacances, Nagui, c'est juillet-août pour les gens normaux, tu sais.
Ah, mais juillet-août, vous faites rien du tout.
Ah non, je me repose. Non, ça et va. J'ai parcouru la France entière. Je connais tous les hôtels de quoi. Enfin, je connais tout, là. Non, c'est bon, je me repose. En septembre.
Le spectacle continue, en effet. À partir de septembre, il y aura plusieurs villes, que ce soit en région parisienne comme Vincennes ou Lilloise. Le 5 décembre, vous serez à Lille.
Il y a Londres le 21 septembre. Je joue à Londres.
Mais tu joues à Londres?
Ouais, je joue à Londres.
C'est chic, ça.
Ouais, c'est très cool. Je suis très content.
Mais où à Londres? Parce que quand il y a des mecs qui disent, ouais, je joue à New York, ça se trouve,
c'est à New Jersey, dans la salle communale, ouais. Non, du tout. C'est à l'Hippodrome Casino. Et il y a plein de humoristes français qui y sont allés, notamment Ken Kojandi, Fary. Et donc, il y a une salle qui s'est montée là-bas.
Ce genre de vanne avait été faite par Raphaël Mesrahi, qui avait fait un spectacle au Stade de France. Et donc, l'affiche était Raphaël Mesrahi au Stade de France. Mais c'était dans une salle.
Il avait joué dans une loge.
Dans une loge. C'est ça, super drôle.
C'est très drôle.
Parce que non seulement il y avait les affiches, mais il avait obtenu de Jean-Claude Darmon la publicité au Parc des Princes sur tous les journaux lumineux autour des joueurs de foot. Donc, il y avait un match genre PSG-OM avec marqué Raphaël Mesrahi bientôt au stade de France.
Et il y avait François qui avait fait François passe à Bercy, enfin devant. Et je passais à vélo devant Bercy.
Voilà, très bien.
C'était il y a longtemps.
Je voulais annoncer du 12 au 16 décembre, vous serez également au Bataclan à nouveau pour votre spectacle. Et vous serez encore aussi mais très occupé par un film qui s'appelle La monnaie de leurs pièces. Est-ce que c'est un film que vous avez déjà tourné?
Oui, il est tourné. On a même fait la post-synchro. Il est quasiment fini de monter. C'est le 5e film d'Adeleny.
Avec Julia.
Avec Julia Piaton, avec Margot Bancillon, Yannick Landrin et Miu Miu qui joue ma maman. Alors ça, c'est un kiff extraordinaire.
C'est génial, ça.
Ah, elle est tellement gentille, Miu Miu.
Elle
m'a appelé l'autre jour. Et je te jure, c'est vraiment une sensation de dingue. J'étais avec mon père dans la rue, on achetait de la peinture et mon père voit Miu Miu sur mon téléphone. Il fait, bah, c'est Miu Miu qui t'appelle. Et
Miu Miu, il parle comme ça vraiment, votre père?
Ouais, mon père parle comme ça. Ouais. Ouais, il faut qu'il prenne des pastilles. Et Miu Miu m'a appelé. Qu'est-ce qu'elle est gentille. Elle est incroyable. Je l'embrasse très fort. C'est une femme adorable.
Exact. Je l'embrasse aussi fort. Vous avez des projets de donc si c'est pas Jackie, ça sera fort. Qui
alors, bon, je vais lire le livre que m'a offert Leïla. Si ce matin j'avais pu imaginer que Leïla Cadeau m'offrirait un cadeau. Oh. Non mais franchement, je suis absolument fan de cette personne. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vous vois à la télé, je me dis mais elle est classe, elle est élégante, elle pose des bonnes questions, mais franchement,
et là ils zappent.
Voilà.
C'est gentil. Je l'avais pas dit.
Bah oui, elle est incroyable.
Voilà.
Des fois elle a des chichas aussi, donc tu vois quand elle aime bien, moi elle m'a offert des trucs très bizarres.
Des excuses à présenter d'aliments, hein. C'est très gênant cette situation.
Ouais, je crois.
Désolé pour Nagui qui à la peau s'est effondré en repensant à l'honnêteté de Maurice Barthélémy qui rachète les droits d'un film dont il ne fait pas. Eh oui, l'Égyptien, l'élégance, il ne connaît pas. Désolé pour Nagui qui, à la pause, s'est effondré en repensant à l'honnêteté de Baptiste Le Caplin qui n'a même pas couché avec des enfants alors qu'il était moniteur de colonie.
Jamais les enfants, j'ai des mamans.
Vous m'avez montré un panneau, c'était dégueulasse. Eh oui, l'Égyptien, l'élégance, il a du mal. Désolé pour Maryse Barthélémy et Baptiste Le Caplin. On l'a entendu durant toute l'émission sur des incarnations du chic à la française et qui, malheureusement, ont découvert ce matin Nagui.
Merci et bravo à tous les deux, Baptiste Caplin, Maurice Barthélémy pour Les Ex, ça sera le 21 juin et on embrasse évidemment fort Patrick Chéner. Arrêtez d'envoyer des messages sur Twitter avec oh vous êtes méchant et Patrick Chéner, ce sont des vannes, sinon on ferait pas ça. Par contre sur François Berléand, c'est vrai qu'on l'aime pas. Demain c'est Julien Bassolier qui sera notre invité, tout de suite des carnets de campagne avec Philippe Bertrand.
Salut les
amis. Salut Philou.
Et bonjour à Maurice. Et Maurice, je veux pas te décevoir, mais Leïla fait des cadeaux tous les jours.
Ah merde.
Ah, oui,
mais là, c'est un cadeau super bien choisi, t'as vu?
Ouais, super bien.
Et c'est un sujet exponentiel, les ex. Vous avez les calmes, les ex posés. Vous avez les ex que vous voulez oublier, les ex filtrés, mais qui échappent à votre contrôle. Vous avez les sages.
Ça va être long, hein.
Les expansifs qui prennent de la place. Et les ex du curé, les ex cathédras.
Ah oui, joli.
Et les ex de la campagne, je vous le donne en mille.
Calisson d'ex, pour
non, les extracteurs.
Ah ouais. Attends,
voilà. C'est le Laurent Dutch des mots, ce gars. C'est
fou. Non, mais il se soigne.
Pas autre chose.
Lui.
C'est de Groot.
Bonne émission, je demande à la campagne.
Salut les amis.
Ciao. Salut.
Bye.